Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma. Médecins sans frontières volent au secours des déplacés sinistrés du volcan Niragongo au Nord Kivu, ainsi que les communautés locales. MSF Belgique a déjà acheminé de l'eau potable à Kanyaruchinya, où sont cantonnés ces ménages. Début hier au Sénat de l'examen du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive. Cette loi prévoit plusieurs sanctions, telles la saisie et le gel des biens et avoirs des personnes physiques ou morales, auteurs et co-auteurs d'infractions prévues par la présente loi. Et puis, l'invité de ce soir, Marie Migani, directrice du Centre d'appui à la promotion de la santé CAPSA en sigle. En marge de la journée mondiale de lutte contre le diabète le 14 novembre, ce centre a organisé hier à Bukavu une conférence de sensibilisation sur cette maladie. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu. L'accès à l'eau potable est l'un des besoins majeurs des populations en déplacement. L'organisation Médecins sans frontières, MSF Belgique, acheminait déjà l'eau potable à Kanyaruchinya pour les sinistrés du volcan Niragongo et les communautés locales. En effet, depuis l'arrivée des milliers de déplacés qui ont fui la guerre dans le territoire de Rutshuru, cette organisation a plus que triplé l'approvisionnement pour répondre aux besoins des déplacés. Une intervention saluée par les déplacés, tout comme les habitants de Kibati. Des détails dans ce reportage de Rosalie Zawadi.
La zone où sont installés les milliers de déplacés venus de Rutshuru n'a pas de cours d'eau. Même les autochtones avaient du mal à trouver de l'eau potable. Madame Kamatari habite le village Kagori, un groupement Kibati. Avant, ceux qui amenaient de l'eau ici la vendaient à 500 francs congolais les bidons de 20 litres. Et puis, les ONG ont commencé à nous amener de l'eau, mais de manière irrégulière. Mais depuis que les déplacés sont là, nous avons de l'eau en quantité suffisante pour nous, pour les citoyens. Et pour les déplacer. Baptiste Touzeau est responsable logistique chez Médecins sans frontières Belgique. Il explique l'intervention de son organisation.
Sur les derniers mois, on a donné environ 60 000 litres d'eau par jour sur trois sites. Et depuis là, quelques semaines, on a augmenté notre capacité pour répondre aux besoins qui sont énormes. Et on est passé à 200 000 litres par jour sur six sites, avec voilà, des camions qui font des rotations en continu pour être sûr que nos infrastructures soient toujours approvisionnées en eau.
Les déplacés qui continuent d'arriver sont installés sur des dizaines de sites au nord de la ville de Goma. Dans ces différents sites, les conditions de vie sont très difficiles et appellent à des interventions consistantes pour soulager la peine de ces familles. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Du côté de la province du Kwilu, la situation des déplacés reste précaire dans le territoire de Bagata. Ils sont au total plus de 500 ménages, dont 3054 déplacés dans le site de Fatundu et d'autres dans les sites de Misai, de Fasila et de Fambondo. Il s'agit des déplacés venus de Kwamut dans le Maïndombe, fuyant l'insécurité dans leur milieu ainsi que ceux du territoire de Bagata. L'administrateur de ce territoire qui livre l'information indique que ces déplacés sont dépourvus de tout. Ils sollicitent l'assistance du gouvernement et des partenaires humanitaires en leur faveur. Joseph Mankoto l'a dit au micro de Irène Boma.
Les déplacés sont regroupés. Il y a le site de Fatundu où c'est 569 ménages. Au niveau du site de Misai, nous avons aussi les déplacés, mais ils sont dans des familles d'accueil. Il y a aussi Fasila et Fambondo qui ont aussi des déplacés. Ils vivent dans des situations de précarité parce qu'il faut voir les conditions sanitaires extrêmement précaires. Il y a des femmes enceintes, il y a aussi les enfants dont on ne connaît pas la destination de leurs parents. Il y a aussi des personnes de troisième âge et ils vivent dans des conditions tellement misérables. Je lance un cri d'alarme au gouvernement. Ils ont fait, mais quand même, se peut, parce qu'il y a d'autres aspects qui n'étaient pas pris en compte. Aussi aux partenaires humanitaires. Par exemple, ils n'ont pas reçu les ustensiles de cuisine et aussi ils vivent dans les proximités. Alors nous craignons même les maladies et aussi d'autres problèmes. Il n'y a pas des chambres. Donc, le mieux, c'est de mettre les ménages dans des tentes.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, le Sénat a débuté hier l'examen du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive. Cette loi examinée en seconde lecture au Sénat rencontre à hauteur de 50% les recommandations du groupe d'action financière GAFI formulées à l'endroit de la RDC lors des travaux de Paris. L'entrée en vigueur de cette loi aidera la RDC à mettre fin au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme via des activités commerciales et des sociétés écrans qui gagnent du terrain en Afrique francophone. Explication de Michel Kifindangoy.
Votée à l'Assemblée nationale le 1er novembre dernier, la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive tient compte des recommandations du groupe d'action financière GAFI, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que de l'apport des experts de la cellule des renseignements financiers, du ministère des Finances et de la Banque centrale. Cette loi prévoit plusieurs sanctions, dont des mesures conservatoires telles que la saisie et le gel des biens et avoirs appartenant aux personnes physiques et morales impliquées comme auteurs et co-auteurs d'infractions prévues par la présente loi. Certaines dispositions de la loi abordent la question de la coopération internationale, étant donné que les infractions de blanchiment des capitaux ont en commun un caractère transnational. Cette loi aborde aussi les questions d'entraide judiciaire entre les services compétents des différents États, de l'extradition des différents coupables, de procéder aux enquêtes, de les juger et leur faire purger les peines prononcées à leur encontre.
Retournons dans la province du Kwilu. Il s'observe actuellement une hausse généralisée des prix des produits agricoles de première nécessité, comme le maïs et le manioc sur le marché de Kikwit. Les sources sur place rapportent que cette situation est causée notamment par l'état de délabrement très avancé des routes de desserte agricole devant desservir Kikwit en produits agricoles. Il s'agit entre autres des routes Kanzumbi-Kimputunseke entre Bulungu, Kikwit, route Kikwit-Idiofa et la route Kazamba reliant Kikwit à Paikongila. Il y a aussi les preneurs de Kinshasa qui se procurent ces produits en grande quantité. Le point avec Irène Boma.
C'est par exemple le cas d'un sac de maïs qui a connu une augmentation de 100%. Il est passé de 120 à 240 000 francs, voire 300 000 francs congolais. Un sac de manioc est passé de 45 à 100 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 25 litres qui se vendait à 25 000 se négocie actuellement à plus de 35 000 francs congolais. Les femmes ménagères se disent préoccupées et se lamentent en ces mots. La vie est devenue intenable. Les maïs et les maniocs sont devenus trop chers. Vraiment, ça ne va pas. Mais où irons-nous? Rodolphe Maboko, un acteur de la société civile de Kikwit, explique ici les causes de cette hausse des prix de ces denrées de première nécessité.
Il y a le phénomène Chichampa. La boisson là, on appelle le Chichampa. On fait ça avec des maïs. Évidemment, tous les maïs sont orientés vers la fabrication des maïs. Ça rapporte un bon intérêt. Il y a aussi le phénomène état de route impraticable, les gens ne voient plus comment se déplacer avec le maïs.
Et pour sa part, Vladimir Kouzangila, coordonnateur de la protection civile de Kikwit, demande aux autorités compétentes de penser à la réhabilitation de ces routes de desserte agricole pour décanter cette situation. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Louboudi, dans la province du Lualaba. Ce territoire est plongé dans le noir depuis 2 mois maintenant. Du coup, les activités commerciales tournent au ralenti. La société civile plaide pour la réhabilitation de la situation. L'autorité territoriale qui confirme l'information indique que la Société nationale d'électricité SNEL est au courant et a promis de trouver des solutions à ce problème. Jean Gandou Kabongo, reportage.
La situation actuelle du territoire de Louboudi est due au vol des câbles électriques par des inciviques. Ces câbles ont été emportés à Kansenya et dans la chefferie de Manzangoulé. Et depuis, tout le territoire est dans le noir. Seuls ceux qui ont des groupes électrogènes et autres systèmes à panneaux solaires jouissent encore de l'éclairage. Les activités commerciales qui dépendent de l'énergie électrique, entre autres la vente des vivres frais, tournent au ralenti. Seuls les rares qui peuvent faire fonctionner leurs groupes électrogènes continuent leurs activités commerciales sans désemparer. Ainsi, les prix des vivres frais dont les chinchards sont revus à la hausse car ils sont obligés de dépenser de l'argent pour s'acheter soit de l'essence soit encore du mazout. Un autre secteur qui est frappé par le manque de courant électrique, c'est celui de la santé, le cas de l'hôpital général de référence. D'après l'autorité territoriale, Louboudi, qui reçoit une dotation de carburant de la province, arrive parfois à voler au secours de cet hôpital, notamment pour faire fonctionner les machines et pourquoi pas l'ambulance pour les transports des malades, comme ce fut le cas lors des accidents ferroviaires et de la route survenus il y a quelques temps et ayant occasionné plusieurs morts et de nombreux blessés. Kolwezi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi pourra bientôt bénéficier d'une centrale photovoltaïque de 8 MW pour appuyer la régie des eaux dans l'amélioration de la desserte en eau potable. Cette annonce a été faite par la délégation mixte arrivée à Mbujimayi, composée du chargé de coopération à l'ambassade de l'Allemagne à Kinshasa et du chargé de portefeuille des projets de la banque allemande qui appuie financièrement la régie des eaux Mbujimayi. Esther Ndalafina nous en dit plus.
Cette délégation a été conduite ce lundi auprès de l'autorité provinciale par le commissaire général en charge de l'énergie. Jachin Kalongi a indiqué que le but de la mission est d'étudier la puissance de l'énergie électrique existante et évaluer les alternatives pouvant accorder à la régie des eaux une autonomie énergétique lui permettant d'améliorer la desserte prochaine de l'eau potable en Mbujimayi. Après la visite de la centrale hydroélectrique de Tchala, confrontée actuellement aux difficultés dues à la vétusté des équipements, la délégation a convenu dans un premier lieu de la construction d'une centrale photovoltaïque de 8 MW destinée aux activités de la régie des eaux. Explication de Dorothée Ronauer, chargée de portefeuille pour le projet Proseco et Proeco de KfW en Mbujimayi.
Nous sommes ici pour trouver des alternatives en énergie renouvelable. Nous sommes ici pour parler avec les partenaires pour vérifier toutes les données de l'étude et finalement pour que la population a l'eau potable à boire.
Signalons que le projet d'adduction d'eau débuté au mois de février 2020 prendra fin en 2023. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. Le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 poursuit sa série de campagnes dénommée « Zéro anti-valeur » dans les écoles et bureaux gestionnaires de cette zone. Dans chaque école, Yoy Boket et Jean-Pierre a sensibilisé les élèves, les enseignants et la direction scolaire sur le code de bonne conduite du personnel enseignant et la lutte contre les anti-valeurs en milieu scolaire. Objectif, contribuer efficacement au redressement du système éducatif, consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement. Plus de détails dans ce reportage de Florence Kiza.
Pour les provèdes, la lutte contre les antivaleurs reste leur préoccupation majeure et c'est la raison de cette sensibilisation.
La sensibilisation continue jusqu'au niveau des bureaux gestionnaires. Pourquoi? Parce que notre souci majeur, c'est de ne plus constater les cas d'antivaleurs dans notre province éducationnelle. Et pour cela, nous devons faire des itinérances partout dans toutes les écoles et dans tous les bureaux gestionnaires pour que les uns et les autres comprennent et qu'on arrive à dénoncer les auteurs des antivaleurs pour que ces derniers soient sanctionnés.
Les écoles sensibilisées s'engagent à pérenniser cette lutte. Frère Jules Pataoulé, préfet de l'Institut de l'Enano.
Par rapport au message du Proved, l'engagement que nous prenons, c'est d'être vraiment les premiers témoins et les premiers pionniers de la lutte contre ces antivaleurs et de faire de l'Enano encore une école de référence et plus excellente que ce qu'elle était avant.
Les concernés sont appelés à dénoncer tous les auteurs des antivaleurs pour qu'ils soient sanctionnés d'une manière exemplaire. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le Royaume-Uni retire ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies. L'annonce est intervenue lundi. Londres met en avant des liens entre le groupe paramilitaire russe Wagner et Bamako. Entre-temps, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine est prolongée d'un an. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a annoncé hier après le vote d'une résolution rédigée par la France. Le mandat de la MINUSCA, qui compte près de 17 500 hommes, est axé sur la protection des civils et encourage le président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement à promouvoir une paix et une stabilité durable grâce à un processus politique et de paix fortifié. En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry a repris hier. Le 18e jour d'audience au tribunal criminel de Dixine a été marqué par la prise de parole de l'ancien ministre de la Santé, 5e accusé à la barre. Dans ce procès, les accusés parmi lesquels figurent l'ancien chef militaire Moussa Dadi Camara sont inculpés pour crimes contre l'humanité et pour avoir été à l'origine du massacre qui a fait plus de 150 morts lors d'un meeting de l'opposition en 2009. Les forces de sécurité sont accusées d'avoir assassiné, violé et torturé des personnes ayant participé à la manifestation.
L'invité.
Le Centre d'appui à la promotion de la santé, CAPSA en sigle, a organisé une conférence de sensibilisation sur le diabète hier à Bukavu. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée le 14 novembre de chaque année. Pour en parler, nous recevons la directrice de ce centre, Marie Migani. Elle s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour madame.
Bonjour messieurs les journalistes. Dans notre organisation, nous militons pour sensibiliser, conscientiser les leaders d'opinion, les autorités politico-administratives par rapport aux maladies non transmissibles, notamment diabète.
Le diabète, puisqu'on en parle, est une maladie transmissible.
Le diabète, c'est une maladie non transmissible. Par rapport aux facteurs favorisants, nous avons les facteurs héréditaires. Et dans le facteur héréditaire, si les deux parents sont diabétiques, les enfants ont 99% pour attraper le diabète. Si l'un des parents est diabétique, c'est 50% pour les enfants. Et si aucun parent n'est diabétique, c'est 25% des enfants pour avoir le diabète. Il y a aussi les facteurs environnementaux. Par rapport aux facteurs environnementaux, nous avons l'obésité, la sédentarité, qui fait assez que la personne peut attraper le diabète. Et enfin, nous avons le stress qui peut engendrer le diabète.
Comment une personne pourrait savoir qu'elle est devenue diabétique?
Il y a les signes, notamment la fatigue, la vision embrouillée, les urinées, plusieurs fois faim insatiable, somnolence, difficulté de concentration, retard de cicatrisation. Et pour les femmes qui font des avortements à répétition, qui donnent naissance à des gros bébés, il y a d'autres, juste l'enfant après avoir naître une mère. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent alerter.
Une fois on a constaté tous ces signes-là, ça suffit pour qu'on puisse conclure qu'on est devenu diabétique?
Si vous voyez ces signes-là, il faut aller maintenant se faire dépister. Et ce n'est pas pour les premiers dépistages que vous dire que vous êtes diabétique. Peut-être que vous êtes parti à l'hôpital et que vous étiez tellement stressé, puisque nous avons dit que le stress augmente aussi la glycémie. Si on trouve que la glycémie est à la hausse, on doit vous donner de l'éducation et vous dire il faut prendre de l'eau, il faut faire de l'exercice et revenir encore une semaine après, puis on dépiste pour voir si réellement vous êtes devenu diabétique ou comment.
Le commun des mortels estime que le diabète est incurable. Vous le confirmez?
Oui, le diabète est incurable, mais on doit équilibrer le diabète. Puisque nous tous, nous avons les cycles dans le sang. Les cycles, nous les prenons comme les carburants de l'organisme. Maintenant, lorsqu'il y a dépassement des seuils, c'est là où on dit qu'on est diabétique. Les charlatans qui disent que nous faisons terminer tous les cycles dans le corps, là c'est biaisé. Et donc, si vous êtes déjà un diabétique, l'essentiel est d'équilibrer la glycémie et vous allez vivre une vie normale.
Comment équilibrer la glycémie? Et c'est quoi la glycémie pour les communs des mortels?
La glycémie, c'est le taux du sucre dans le sang. Et le taux du sucre dans le sang est estimé en milligrammes par décilitre ou bien en mol par litre. Et pour les milligrammes par décilitre, ça doit nager entre 70 milligrammes par décilitre à 125 qui est le maximum. C'est ça le taux qui est normal dans le sang. Si vous êtes maintenant au-delà des 125, là vous êtes déjà pré-diabétique. Et si ça continue à être au-delà des 150, vous êtes déjà diabétique.
Comment se faire soigner alors?
Pour se faire soigner, il y a quatre éléments qui doivent intervenir. Le premier élément, c'est suivre l'éducation sur le diabète. Puisqu'en suivant l'éducation sur le diabète, vous allez savoir comment est-ce que vous allez vivre avec votre maladie. Deuxième élément, c'est le respect des régimes alimentaires. On est conseillé de manger tout, mais avec modération. Et surtout, si vous êtes déjà malade, il y a des aliments qu'on doit vous dire catégoriquement, il ne faut pas toucher. Canne à sucre, sucre de table, fini pour vous. Lorsque vous êtes déjà malade et si vous voulez prendre du thé, il y a les sucres pour diabétiques. Donc, il y a les régimes alimentaires pour que vous puissiez équilibrer votre glycémie. Troisièmement, il y a les exercices physiques que vous serez soumis à effectuer pour aider le corps à bien utiliser les sucre qu'il produit. Et enfin, il y a maintenant le médicament. Et donc, si vous êtes déjà diabétique et que vous suivez l'éducation, vous suivez bien votre alimentation et vous faites l'exercice, vous pouvez vivre avec ça et équilibrer votre glycémie. Et si ça n'accepte pas, c'est là où maintenant il faut aller prendre maintenant les médicaments. Et là, nous disons que la prise en charge du diabète, c'est plus complexe puisque ça demande l'intervention de plusieurs intervenants. Et donc, c'est toute une multitude, toute une discipline pour la prise en charge médicale.
Je vous remercie beaucoup, madame.
C'est moi qui vous remercie.
Marie Migani, directrice du Centre d'appui à la promotion de la santé, CAPSA, était avec Jean Kassami depuis Bukavu. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rongmouchinj, Richard Nyokamong à la coordination, à la mise en onde, Jean-Claude Nsiala. Merci de votre attention.